Salut les boss. Bon, aujourd'hui, je vais me faire l'avocat d'Elon Musk, le temps de cet épisode. J'aime beaucoup ce type. Il est évidemment très intelligent, mais en plus, il est souvent très drôle. Il a déclaré un jour, j'aimerais mourir sur Mars, mais pas en me crachant à l'atterrissage. Il a aussi expliqué que souvent, il espérait pouvoir vivre assez longtemps pour pouvoir avoir suffisamment de temps devant lui pour pouvoir effectuer ce qu'il s'est donné comme mission dans sa vie, c'est-à-dire permettre à l'humanité d'aller sur Mars. Donc, il s'exprime souvent avec humour, mais il est également pleinement conscient de la gravité de la mission qu'il s'est donnée. Il mesure pleinement l'enjeu de cet objectif, et je pense que dans son esprit, c'est quelqu'un qui voulait devenir l'homme le plus riche du monde, non pas pour accéder à la richesse, mais principalement pour avoir les moyens de réaliser son ambition d'aller sur Mars. Et je vous propose donc de partir ensemble, aujourd'hui très loin dans cet épisode. On va essayer de comprendre ce qui pousse l'homme le plus riche du monde à vouloir aller sur Mars. Pourquoi le génie Elon Musk veut-il se lancer dans un projet aussi fou? On va se demander aussi pourquoi il a voulu racheter Twitter. Bref, on va essayer de plonger dans sa tête un moment. Allez, c'est parti. Donc Elon Musk fait plein de choses. Il veut sauver la liberté d'expression en rachetant Twitter. Il veut construire des voitures plus propres avec Tesla. D'ailleurs, les Tesla sont construites pour la plupart en Occident. Il y a 4 gigafactories aux États-Unis, une gigafactory en Allemagne pour le marché européen et une en Chine pour le marché chinois. Donc quelque part, il est un symbole à la fois d'innovation, mais aussi un symbole de réindustrialisation de l'Occident. Bon, je vous parle de lui aujourd'hui. Aussi parce que c'est quelqu'un qui a investi dans le Bitcoin. Et d'ailleurs, Tesla possède actuellement 10 700 Bitcoins dans sa trésorerie. Quand même, c'est pas une petite somme anecdotique. Alors, je vais pas vous parler du Doge ou du Shiba Inu, qui sont pour moi sans intérêt. Je vais pas non plus vous parler de tous ces autres projets parallèles. On aurait pu parler de Starlink, de la société Boring Company, mais on n'aura tout simplement pas suffisamment de temps dans cet épisode pour parler de tout ça. Par contre, on va parler de SpaceX, puisqu'Elon Musk est aussi le patron de cette société. Alors, SpaceX, c'est une société qui a été très disruptive dans le monde de l'aérospatial. Bon, de toute façon, Elon Musk est disruptif partout où il passe. Donc, cette société SpaceX est capable d'envoyer des fusées réutilisables dans l'espace, c'est-à-dire qu'il fait revenir ces fusées intactes au sol, à leur point de lancement initiaux. Les fusées se reposent à la verticale, c'est super impressionnant à regarder. Et le fait de pouvoir réutiliser les mêmes fusées plusieurs fois de suite, évidemment, c'est beaucoup moins coûteux que de devoir reconstruire à chaque nouveau lancement une nouvelle fusée toute neuve. Imaginez un peu si vous deviez prendre le volant d'une voiture neuve à chaque fois que vous aviez besoin de conduire, le coût du déplacement pour aller chercher par exemple vos enfants à l'école ou pour aller au supermarché, ça serait excessivement cher. Eh bien, jusqu'à récemment, c'était comme ça dans l'industrie spatiale, avant SpaceX, et c'est ce problème qu'a résolu Elon Musk. Et donc, évidemment, cette innovation lui a permis de baisser de façon très importante le coût de ses lancements, et ça lui a permis de s'imposer sur le marché des lancements spatiaux. Et d'ailleurs, selon certaines estimations, aujourd'hui, SpaceX serait valorisé à hauteur de 137 milliards de dollars. Voilà. Ce sont ces fusées qui sont utilisées pour ravitailler, par exemple, la station spatiale internationale. Voilà. Alors, moi, je m'intéresse à SpaceX depuis au moins une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, il faut signaler que l'Agence spatiale européenne et Arianespace ont toujours un peu méprisé Elon Musk. Ils l'ont snobé pendant des années. Ils ont pensé que ce type était dingue. Et aujourd'hui, bien sûr, je pense qu'ils s'en mordent les doigts. Et vous voyez, c'est cette même attitude hautaine et un peu ringarde qu'on retrouve chez des gens comme Christine Lagarde et chez tous ceux qui critiquent le Bitcoin aujourd'hui. Bon, sinon, à plus long terme, le projet de SpaceX, c'est quoi? C'est carrément de sauver l'humanité. Vous savez sûrement que les dinosaures se sont éteints suite à l'impact d'un gros astéroïde de 12 km de diamètre qui est venu frapper la Terre, alors il y aurait 66 millions d'années. Et en gros, en envoyant des hommes sur Mars, ce que veut faire Elon Musk, c'est ni plus ni moins que de recréer un deuxième point de sauvegarde pour l'humanité. Pour Elon Musk, aller sur Mars, c'est une garantie de survie pour l'espèce humaine. Selon lui, si la Terre connaissait un jour une catastrophe apocalyptique de ce type, ou une guerre nucléaire par exemple, il serait salutaire pour l'humanité d'avoir un deuxième endroit où se replier afin d'éviter une extinction de masse. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut faire sourire, mais il faut savoir qu'il y a régulièrement des astéroïdes, effectivement, qui passent tout près de la Terre. Par exemple, en 2013, la NASA a braqué ses télescopes sur l'astéroïde 2012 DA14, c'est son nom, 57 mètres de diamètre tout de même, qui est passé tout près de nous à 34 000 km d'altitude. À cette distance, certains astronomes amateurs ont pu l'observer avec de simples jumelles, parce que 34 000 km à l'échelle de l'espace, c'est extrêmement proche. Donc ce qu'il faut comprendre aussi avec Elon Musk, c'est que sa vision est totalement opposée à celle de quelqu'un comme Bill Gates, par exemple. Bill Gates, comme la plupart des gouvernements occidentaux aujourd'hui, comme la plupart des dirigeants, par exemple, du World Economic Forum, ce sont des gens qui raisonnent en se basant sur ce qu'on appelle l'équation climatique de Kaya. C'est-à-dire CO2 égale population fois PIB divisé par population fois énergie divisé par PIB fois CO2 divisé par énergie. Autrement dit, je vous résume ça simplement, ça signifie que pour tous ces gens, une réduction de la population, ou tout du moins un contrôle de la démographie, est souhaitable. Parce qu'en gros, plus la population est nombreuse et plus elle est riche, plus les émissions de CO2 sont importantes. Elon Musk, c'est ça que j'aime chez lui, il voit ça différemment. Pour lui, réduire la population n'est pas souhaitable, car on se priverait alors potentiellement de futurs génies et de futurs colons qui iraient explorer Mars. Donc, on a affaire aujourd'hui à deux types de futurs possibles, radicalement opposés. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a très bien été résumé par Robert Zubrin. Alors, Robert Zubrin, c'est le fondateur de la Mars Society. C'est un ancien ingénieur en système de propulsion spatiale, ancien consultant auprès de la NASA. Voilà ce qu'il dit dans une interview. Aurons-nous un futur ouvert ou un futur fermé? Aurons-nous un futur avec plus de réglementation, plus de rationnement? Aurons-nous un futur où l'autre est une menace dans un monde fini, où les ressources sont limitées? Ou bien aurons-nous un futur où l'autre est un allié, un partenaire qui vous aide à découvrir et à exploiter de nouvelles ressources et de nouvelles richesses disponibles en quantité illimitée? Et là, je trouve que c'est une citation qui doit vraiment nous interpeller, parce qu'en fait, tant qu'on vit dans un monde fini, eh ben l'autre est perçu comme une menace. Il est perçu comme quelqu'un qui peut éventuellement vous voler votre part du gâteau. Et donc, dans un monde fini, effectivement, les gens finissent par se faire la guerre. Alors qu'en réalité, les ressources sont totalement infinies et illimitées dans l'univers. Et donc, il est possible d'accéder ensemble à un immense gâteau. L'auteur de cette citation, Robert Zubrin, a écrit plusieurs livres dans lesquels il décrit en détail comment l'homme pourrait atteindre la planète Mars en moins de 10 ans pour un coût financier raisonnable et en utilisant la technologie déjà existante. Selon lui, l'exploration de Mars n'exige ni technologie miracle, ni ports spatiaux, ni gigantesques croiseurs interplanétaires de type guerre des étoiles. Ensuite, une fois sur place, son idée, c'est d'utiliser les ressources locales disponibles sur Mars, à la fois dans le sol et dans son atmosphère. Voilà, j'y reviendrai un peu plus longuement dans quelques minutes. En tous les cas, c'est bien de cela dont il est question. On a deux avenirs diamétralement opposés, comme je vous le disais, qui nous sont proposés. D'un côté, un crédit social avec un quota carbone à ne pas dépasser, avec éventuellement 4 ou 5 vols en avion autorisés dans une vie, comme l'a suggéré récemment Jean-Marc Jancovici. Donc ça serait un futur avec des restrictions, un futur déprimant, régressif, dans lequel on est fiché, on est placé sous surveillance. C'est le futur actuellement voulu par les élites. Quand on vous parle de la fin de l'abondance, c'est ce que ça signifie. Ou d'un autre côté, on pourrait avoir un futur dans lequel on a des voitures qui sont plus propres, mais qui sont aussi plus performantes. On a un avenir dans lequel le progrès technique est quelque chose de positif, qui n'est pas incompatible avec l'écologie. Un avenir ouvert, dans lequel l'homme n'est pas perçu comme une espèce invasive et nuisible. On a un avenir glorieux et épique dans lequel l'homme peut se rendre sur Mars. D'ailleurs, dans mon dernier épisode, je vous parlais de la Révolution américaine et de l'esprit pionnier de cette nation à son origine. Et bien là, avec Elon Musk et la conquête de Mars, on est totalement dans le même registre. Tout ce qu'il nous faut, c'est la technologie, c'est du bon sens et évidemment beaucoup de courage. Mais bien sûr, comme vous vous en doutez, c'est pas si simple. En face de cet esprit pionnier, il y a énormément de freins psychologiques et énormément de barrières idéologiques qui se dressent. Par exemple, si vous pensez comme la députée Sandrine Rousseau, qu'on a, je cite, un droit à la paresse, alors bien sûr, vous êtes philosophiquement aux antipodes de cet esprit pionnier. Le droit à la paresse dans la nature, à l'état sauvage, ça se termine pour tout être vivant par la mort. Ou alors, si vous ne mourrez pas, ça signifie que quelqu'un va chasser pour vous ou que quelqu'un d'autre va travailler pour subvenir à vos besoins. Et les personnes comme Sandrine Rousseau, il y en a plein. Ce genre de personnes nous affirment des choses étranges, comme par exemple qu'un homme peut tomber enceinte. Et donc, on voit bien que quand la société devient totalement bobo, totalement woke, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne peut plus avancer. On ne peut plus rien construire et en réalité, on rentre même dans une sorte de déclin civilisationnel. Et aller sur Mars, c'est un projet qui est totalement incompatible avec cet état d'esprit. C'est au contraire projeter l'humanité vers le futur. Aller sur Mars, c'est tout simplement pas un projet compatible avec un wokisme tordu qui détruit une société de l'intérieur. Et bien évidemment, si vous pensez qu'on a un droit à la paresse ou si vous pensez que les gens font des AVC à cause du réchauffement climatique, alors vous ne pourrez sans doute pas comprendre Elon Musk ni adhérer à ses projets et vous ne pourrez probablement pas non plus comprendre le Bitcoin. Et donc je pense que c'est cette problématique qui a poussé Elon Musk à racheter Twitter il y a quelques mois. Bien sûr, il a des idées pour faire évoluer le site et pour mieux monétiser Twitter parce que c'est un businessman. D'ailleurs, il est tout à fait capable dans les prochains mois, par exemple, d'intégrer les paiements en Bitcoin à l'intérieur de Twitter. C'est quelque chose de tout à fait possible qui pourrait se produire. Mais je pense aussi vraiment que le côté idéologique a énormément joué dans son choix. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut devenir président. C'est quelqu'un qui veut juste aller sur Mars. C'est son objectif numéro 1 depuis 20 ans. Mais si l'humanité devient totalement woke, c'est sans doute un projet qui ne pourra jamais être mené à bien. Donc peut-être qu'il a estimé qu'il fallait rééquilibrer le débat écologique et ramener un peu de rationalité dans le monde. On sait bien qu'aujourd'hui, Twitter, c'est le lieu où se déroule la guerre des idées. Tous les journalistes sont sur Twitter, tous les politiques sont sur Twitter. Donc c'est vraiment l'épicentre de presque tous les combats idéologiques. Or, que ce soit le narratif des grands médias ou la propagande officielle de nos hommes politiques, en réalité, ni l'un ni l'autre ne peut résister à un Twitter libre et non censuré. Twitter, pour peu qu'on suive les bonnes personnes, est une machine à lutter contre le biais idéologique et contre la désinformation de masse qui est faite par les grands médias subventionnés. Et Elon Musk a dit publiquement que selon lui, on était allé trop loin dans le wokisme et qu'il était important de replacer les débats politiques moins à l'extrême gauche et plus vers le centre. Et c'est avant tout un humaniste qui a une vision d'ingénieur qui repose avant tout sur la science et sur la liberté. Il fait pas ça, comme je vous l'ai dit, pour être président, et c'est pas une question de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, je pense que malheureusement, Musk a pris beaucoup de risques en se lançant dans ce rachat, parce que du coup, il se retrouve maintenant avec en face de lui des gens qui se considèrent eux-mêmes comme des élites, comme les sachants, et comme les seuls aptes à diriger le monde. Je pourrais citer par exemple Thierry Breton à la Commission européenne qui est monté au créneau plusieurs fois contre Musk, mais il y a eu aussi certaines déclarations sur un ton, on va dire, préoccupé de la Maison Blanche dans ce sens. Donc, évidemment, à trop s'exposer, à trop s'approcher de l'arène politique, on prend des risques, à trop vouloir lever le rideau sur certains mensonges, sur la corruption, il se met en danger. Et franchement, je pense même qu'il y a des risques réels pour sa sécurité et pour son intégrité physique. C'est quelqu'un qui, malheureusement, pourrait finir suicidé, comme on dit. Et donc, je pense que le but de ce rachat, encore une fois, c'était pas de libérer une parole violente ou fasciste. Elon Musk n'est pas un fasciste. L'idée de ce rachat, c'était d'ouvrir le code source de Twitter et de réduire la censure. On sait aujourd'hui qu'il y a eu énormément de censure ces dernières années, notamment au sujet du fils du président des États-Unis, mais aussi sur tout ce qui touchait au Covid ou sur tout ce qui évoquait de trop près les sujets des effets secondaires, enfin les effets secondaires de vous savez quoi. Et les agences gouvernementales ont demandé à Twitter de fermer des centaines de milliers de comptes. y compris des comptes de journalistes et des comptes de médecins reconnus. Et ça a été dévoilé par Elon Musk. Il y a des chiffres officiels. Donc Elon Musk a pris des risques. Alors vous me direz, il a beaucoup d'argent. Il peut se permettre peut-être de prendre plus de risques, évidemment, que le commun des mortels. Certes, mais je pense qu'il a compris, surtout que si on laisse nos démocraties et nos économies dans les mains de personnes corrompues, à court terme, on est foutu. Parce qu'une société hypocrite qui censure ne peut pas résoudre ces conflits. Quand on occulte les problèmes, ça ne peut tendre que vers un pourrissement de la situation. À l'inverse, dans une société évoluée, avec des médias libres, on est capable de dialoguer, on est capable de confronter les idées et les faits. Et tout est comme ça, qu'il s'agisse d'informations, de monnaie ou même de nourriture, quand la monnaie se désintègre, on finit par manger de la bouffe de merde, par consommer des sous-produits. Ça finit par impacter notre santé, notre morale, notre mental. Donc, on ne peut pas se contenter d'une information manipulée, comme on ne peut pas se contenter d'une monnaie qui est créée à partir de rien, juste parce que quelqu'un appuie sur un bouton. Comme je vous le dis, tout est lié. Le progrès civilisationnel doit se faire sur plusieurs plans à la fois, la technologie, la monnaie, l'information, et on doit être capable à tout prix de conserver une colonne vertébrale morale et une éthique. Et donc pour effectuer ce saut civilisationnel, on a besoin de gagner aussi cette guerre idéologique et spirituelle, on a besoin d'une presse qui dit la vérité, on a besoin d'une justice qui fait son travail, etc. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous dire grosso modo dans cette première partie. Alors maintenant qu'on a posé le contexte, il faut avancer un petit peu dans cet épisode. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi aller sur Mars? Quel est l'intérêt d'une telle aventure? Qu'est-ce qu'on va trouver sur place? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Alors déjà, aller sur Mars, économiquement, c'est faisable. Et ça coûterait même infiniment moins d'argent que la guerre en Irak n'en a coûté, pour ne prendre que cet exemple. D'autre part, Mars, c'est le seul endroit du système solaire qui soit colonisable. Vous allez voir que cette planète a vraiment pas mal de caractéristiques intéressantes. Tout d'abord, sur Mars, on a des journées de presque 24 heures, comme sur Terre. Donc il serait tout à fait possible de faire pousser des plantes dans des serres pressurisées qui donneraient à leur tour de l'oxygène. Alors ça serait impossible de faire ça sur la Lune puisque les nuits lunaires durent 15 jours terrestres consécutifs. Et en plus, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc en tout cas, ça serait quelque chose d'impossible sur la Lune, mais ça serait tout à fait possible sur Mars. On sait aussi que le lichen et que certains champignons peuvent résister aux conditions martiennes grâce à des expériences menées dans des chambres de simulation soumises aux mêmes conditions que sur Mars. On sait que le lichen est capable de survivre et de réaliser sa photosynthèse. Lors de cette expérience, les lichens qui étaient abrités dans une petite cavité rocheuse ou dans de simples fissures, avec peu de lumière, ont bien réagi. Mais les lichens exposés directement aux radiations, donc non protégés, ont également survécu. On a aussi refait cette expérience avec des espèces de champignons microscopiques originaires de l'Antarctique. C'est-à-dire que les champignons ont été exposés à des conditions atmosphériques martiennes, recréées en laboratoire, avec une atmosphère composée à 95% de dioxyde de carbone, une pression très faible avec beaucoup d'ultraviolet, et au final, 60% des cellules des champignons étudiés sont restées intactes. Bon, ensuite, sur Mars, une année dure à peu près 2 années terrestres, avec 4 saisons de 6 mois. Donc c'est facile, les durées sont multipliées par 2. On a des températures comprises entre plus 10 degrés Celsius et moins 90 degrés Celsius. Alors vous allez me dire, c'est très froid. Mais je me suis amusé à regarder la température à Chicago, à Noël, donc c'est-à-dire il y a 15 jours, et il faisait moins 26 degrés. Donc on sait bien qu'il peut faire aussi très froid sur Terre. Ensuite, la luminosité sur Mars est égale à 55% de la luminosité sur Terre. Donc c'est un peu sombre, mais on y voit quand même très bien. Alors, très important, on a de la glace dans le sous-sol et aussi au niveau des deux pôles. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a de l'eau, avec en passant des atomes d'oxygène contenu dans cette eau. Il y a notamment beaucoup de glaciers un peu partout sur la planète, parfois à peine 1 mètre de profondeur, et on sait maintenant que ces glaciers sont composés de glace d'eau et non pas de glace carbonique. Les scientifiques ont même calculé que si toute cette quantité de glace venait à fondre, il y aurait une quantité d'eau suffisante à l'état liquide pour recouvrir toute la planète Mars sur environ 1,10 m de profondeur. Donc Mars n'est pas un désert aride. Et d'ailleurs, les scientifiques savent maintenant avec certitude qu'il y a eu des océans dans un lointain passé sur Mars, puisqu'on observe encore des vallées, des lits de rivières, des strates sédimentaires feuilletées par couches, des galets ronds et lisses qui sont des preuves de cette ancienne présence d'eau liquide sur Mars. Alors ensuite, on a Une pesanteur égale à 35% de la pesanteur terrestre, c'est-à-dire qu'un homme de 100 kg sur Terre pèserait 35 kg sur Mars. Alors c'est sûr que ça serait certainement quelque chose de très étrange à expérimenter, mais au moins c'est suffisant quand même pour éviter les problèmes de décalcification du squelette que rencontrent certains astronautes qui vivent pendant plusieurs mois dans l'espace avec une gravité inexistante. On a également une atmosphère composée essentiellement de CO2, alors elle est peu dense, mais elle a le mérite tout de même d'exister, d'être là et de protéger des rayons cosmiques. Bon, en plus de ça, si les astronautes, une fois arrivés sur Mars, disposent d'un abri, en particulier pour la nuit, qui les protège correctement des radiations, c'est pas du tout quelque chose qui rend impossible l'exploration de Mars. Il y a aussi du vent, et même parfois des tempêtes de sable. Ensuite, en termes de superficie, on a une superficie martienne totale qui est égale à la surface de toutes les terres émergées sur notre planète. Donc en gros, si vous additionnez la superficie de tous nos continents, sans compter les océans, vous obtenez la surface de Mars. Donc il y a de la place pour jouer au ballon, comme on dit. D'autre part, la planète Mars n'est pas si éloignée que ça. Elle se trouve à 180 jours de la Terre, dans la meilleure configuration possible, en prenant la vitesse moyenne des fusées actuelles. Peut-être qu'un jour, on aura des fusées nucléaires qui seront plus rapides, ça on peut pas le savoir. Mais dans tous les cas, 180 jours, c'est à peu près le temps que les colons britanniques mettaient pour arriver en Australie par bateau au 19e siècle. Ensuite, on a des éléments qui laissent à penser qu'il y a peut-être eu de la vie sur place dans un lointain passé. En tous les cas, on a tous les éléments chimiques nécessaires à la vie de type terrestre qui sont sur place. Il y aurait même du méthane sur Mars. Alors ça, c'est très curieux parce que le méthane, habituellement, ça provient de déchets biologiques qui se décomposent. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop l'expliquer. Mais d'une manière générale, tant qu'on n'ira pas sur place, de toute façon, on sera forcément limité dans les recherches. Certes, aujourd'hui, il y a actuellement des petits rovers, par exemple le rover Curiosity, qui roule et qui est dirigé à distance par la NASA, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est aller sur place, et une fois sur place, on trouverait plein de choses, par exemple des ressources naturelles, des minerais, des minéraux, des pierres précieuses, peut-être même aussi des très vieux fossiles, etc. Bon voilà, on peut continuer comme ça longtemps. Mars a aussi des volcans endormis de 30 km de haut, des canyons de 5000 km de long. Mars a deux petites lunes qui courent dans son ciel. Il y a également des tunnels de lave. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que d'une part, ces tunnels de lave seraient 100 fois plus vastes que sur la Terre. Mais surtout, c'est que ces tunnels de lave pourraient constituer de très bons abris pour les premiers arrivants. Ce qui est particulièrement intéressant, en plus, c'est qu'à partir d'une certaine profondeur, la température remonte. Sur Terre, par exemple, on gagne 3 degrés Celsius tous les 100 mètres de profondeur. Donc si la température et si la pression remontent au fur et à mesure qu'on descend profondément, c'est le principe de la géothermie, alors on pourrait peut-être trouver des lacs d'eau liquide. Là, ce serait une découverte vraiment hyper intéressante. Etc, 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 j'arrête là. Mais vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses vraiment remarquables et intéressantes. Mais c'est pas fini. Il y a aussi d'autres raisons d'aller sur Mars. Aller sur Mars, ce serait probablement le meilleur moyen de provoquer un boost pour l'innovation technique. Ça serait un moteur fantastique pour l'innovation technique et scientifique à tous les niveaux. C'est ce que Robert Zubrin nomme le front pionnier de l'innovation. Dans le sens où tous les pionniers qui arrivent dans un nouvel environnement sont toujours confrontés à de nouvelles problématiques, ce qui les pousse à mettre au point de nouvelles solutions inédites. En gros, l'idée, c'est que Mars sera à la pointe de l'innovation, comme l'a été en son temps l'Amérique. Voilà, et en parlant d'Amérique, souvenez-vous par exemple que quand l'armée américaine a développé ses premiers ordinateurs, ils étaient gros comme des maisons, personne ne comprenait à quoi cela pourrait servir, et personne ne pouvait prévoir à l'époque que quelques décennies plus tard, l'informatique serait à ce point miniaturisée et serait à ce point rentrée dans nos vies. Et pareillement pour l'automobile et l'aviation. À leur début, personne ou presque n'imaginait que ces industries allaient créer plus tard des millions d'emplois. Parce qu'en plus, l'innovation a aussi l'avantage de créer des nouveaux secteurs d'activité et donc, par voie de conséquence, de créer des millions d'emplois. Alors bien sûr, on le sait, il y aura beaucoup d'obstacles à surmonter. On l'a dit, le plus gros obstacle, sera sûrement l'hostilité du grand public face à des projets qui seront jugés peut-être trop coûteux et inutiles. Ensuite, l'autre obstacle, bien sûr, ça sera le manque de courage des politiques qui auront peur de se confronter au grand public. Bon, après, vous savez, vous trouverez toujours des gens pour vous dire qu'avant d'aller dans l'espace, il y a des problèmes plus urgents à régler sur la Terre. C'est certain, on peut pas le nier non plus. Mais le problème avec ce raisonnement, c'est que si on attend d'avoir résolu tous les problèmes sur Terre, on ne fera jamais rien. Et pareillement, vous trouverez toujours des gens pour vous dire que c'est impossible, ou qui trouveront toujours des excuses pour toujours tout repousser à plus tard. C'est des gens qui vous diront, ok, allons sur Mars, mais dès qu'on aura inventé un moyen de se téléporter, vous voyez, par exemple. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que si un président prenait un jour le risque de donner son feu vert à une mission spatiale vers Mars, l'humanité pourrait se souvenir de lui pendant les peut-être les 10 000 prochaines années. Ce président et tout son peuple auraient alors l'honneur éternel d'avoir appartenu à cette première génération de pionniers. Ça fait beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suppositions, on part un peu dans tous les sens. On verra bien ce qui se passe. Et puis si par malchance, aucun gouvernement ne décide de se lancer dans cette aventure, peut-être qu'Elon Musk décidera d'y aller tout seul, d'engager toute sa fortune personnelle au service de ce projet. On verra. C'est certain que ça sera un défi très difficile à relever, ça c'est sûr. Mais en ce qui me concerne, j'espère vraiment voir ça de mon vivant. Bon, et puis avant de finir cet épisode, il y a une dernière théorie dont je voulais vous parler, c'est la théorie du Great Filter, le grand filtre. En gros, le paradoxe soulevé par cette théorie, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'exoplanètes potentiellement habitables dans la galaxie et dans l'univers, en dehors de notre système solaire. En fait, il y a probablement des millions de planètes rocheuses, comme la nôtre, situé à bonne distance du Soleil avec des températures idéales pour l'apparition de la vie et avec de l'eau liquide à leur surface. Maintenant, les astronomes savent détecter ce genre de planète. Mais malgré tout, aucune forme de vie n'a jamais été détectée et ne s'est jamais manifestée à nous. Alors que pourtant, statistiquement, la vie devrait exister sur d'autres planètes. Donc c'est ça un petit peu le paradoxe, le point de départ de cette théorie. Alors, peut-être que les civilisations extraterrestres, si elles existent, ont décidé de nous laisser tranquilles, un petit peu comme on laisserait une espèce animale protégée en paix dans un parc naturel. Mais l'idée centrale de cette théorie du Great Filter, en gros, c'est de dire qu'il existerait un filtre, quelque part, qui empêche les civilisations de se projeter au-delà de leur propre planète. Ça peut être qu'à un moment donné, les civilisations en question finissent toujours par s'autodétruire. Ça peut être aussi qu'à un moment donné, elles ont consommé même toutes leurs ressources naturelles et tout le carburant disponible qui aurait pu leur permettre de se projeter au-delà de leur propre monde. On ne sait pas trop. Donc si cette théorie est exacte, si ce plafond de verre existe, ça signifierait alors que le temps est compté et qu'il y a en fait un compte à rebours, une course contre la montre pour pouvoir effectuer ce saut civilisationnel. Et une fois que cette fenêtre temporelle est passée, l'opportunité est passée, la chance est passée, et c'est foutu. Bon, alors pour ma part, je ne crois pas trop à cette théorie, mais je trouve que c'était quand même intéressant d'en parler un petit peu. Pour ma part, je ne crois pas trop non plus à l'épuisement des ressources, parce que par exemple, on produit infiniment plus d'électricité qu'il y a 100 ans. Il y a plein de produits et de matières premières qui sont beaucoup plus abondantes et facilement accessibles qu'il y a 100 ans. On peut citer le sucre ou le cacao par exemple. On peut citer beaucoup d'exemples comme ça. Et en ce qui concerne les mines, c'est pareil. On peut dire un mot là-dessus rapidement avant de finir. La mine la plus profonde du monde fait un peu moins de 4 km de profondeur. Mais quand on ramène ça au diamètre de la Terre qui est de 12 700 km, on se rend compte que c'est tout à fait négligeable. Il y a même des scientifiques qui ont calculé que tout ce qui avait été extrait des mines par l'homme, dans toute l'histoire, en termes de volume, c'était équivalent à un verre d'eau si on ramenait la Terre à l'échelle d'une piscine olympique. Donc vous imaginez bien qu'en termes de volume, un verre d'eau en plus ou en moins par rapport à une piscine olympique, ça fait pas une grosse différence. Enfin bref les amis, je vais m'arrêter là-dessus. Il y aurait encore sans doute beaucoup à dire, mais l'épisode est déjà suffisamment long comme ça. En tous les cas, j'aime bien l'idée que l'humanité ira un jour sur Mars. J'espère vraiment voir ça de mon vivant. J'aime aussi l'idée que dans le piano, même si le nombre de touches est limité, la possibilité de créer et d'imaginer des mélodies est infinie grâce à l'imagination et à l'intelligence humaine. Et donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Désolé, c'était un épisode un peu technique par moment. J'espère que je vous ai pas donné mal au crâne. Et j'espère que vous avez aimé ce petit voyage que je vous ai proposé. Je vous dis merci, à très bientôt et ciao les boss.